Bonjour à tous, je suis Ophélie Meunier. Je présente le journal Inattendu tous les samedis midi sur RTL. Bienvenue dans l'Interview Inattendue, le podcast. Dans chaque épisode, je vous propose une rencontre avec une personnalité. Acteur, penseur, scientifique, écrivain ou musicien, quel que soit son talent, son univers, dans chaque entretien, mon invité se raconte de manière inattendue. Vous allez découvrir son regard sur notre société, ses passions ou encore ses goûts en musique ou en littérature. Pour cette interview inattendue, je suis avec un homme qui connaît la Terre et son monde vivant mieux que personne. Cher invité, qui êtes-vous ? Vous avez une minute pour vous présenter.
Je suis Bruno David, je suis président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je mesure 1m84, je fais 80 kilos, j'ai les yeux bleus. Alors, il faut pondérer un petit peu tout ça. 66 ans, donc normalement, ça calme un petit peu. Sinon, plus sérieusement, ce qui m'anime, c'est la curiosité. Je pense que depuis que je suis enfant, je suis très animé par la curiosité du monde qui m'entoure, c'est-à-dire du monde vivant, du monde minéral. Qu'est-ce qui se passe ? Je sors dehors, je regarde ce qu'il y a, notamment si je suis en dehors de la ville. Et derrière cela, ça se traduit par un engagement. Une fois qu'on a compris, qu'on connaît, on a plus envie de s'engager, forcément, pas forcément de défendre, ça serait peut-être un grand mot, mais en tout cas, au-delà de la compréhension, de prêcher cette compréhension, de la porter, et surtout que le monde vivant ne va pas très bien en ce moment. Donc voilà ce qui m'anime.
Merci Bruno David. Vous êtes donc chercheur, biologiste et président, vous l'avez dit, du Muséum d'Histoire Naturelle. Comme environnement de travail, il y a pire, hein ? Quand même.
Il y a pire, je suis au cœur du Jardin des Plantes, dans un bâtiment construit sous Louis XIV, donc pas très bien adapté quand même à la vie moderne, mais qui a un charme absolument fabuleux. Et je vois de ma fenêtre un platane planté par Buffon en 1785, qui est absolument magnifique. J'ai des photos de lui à toutes les saisons, je ne m'en lasse pas.
Et vous êtes avec moi aujourd'hui car vous venez de publier un livre qui m'a interpellée, à la fois passionnant et un peu angoissant. Il faut le dire, à l'aube de la sixième extinction, aux éditions Grasset. Avant d'en parler et de comprendre comment on va pouvoir sauver la vie sur Terre, c'est un peu ça la question, j'aimerais apprendre à vous connaître un peu plus, Bruno David. En une phrase, 2020 aura été l'année de quoi pour vous, Bruno David ?
Ça a été l'année d'une prise de conscience encore plus aiguë que nous faisions partie du vivant et que nous étions en interdépendance totale avec le reste du vivant.
Et 2021 sera l'année de quoi ?
En un mot, de l'espoir.
Même pas en une phrase, en un mot. D'un point de vue nature et biodiversité, quelle est la grande leçon que l'on a tirée de l'épidémie que nous traversons en ce moment, selon vous ?
Alors, si on arrive à en tirer une leçon, moi, je pense que c'est une prise de recul. Simplement parce qu'on a le nez dans le guidon en ce moment, et on le voit bien, on n'arrive pas à se dépêtrer de ce virus qui touche de plus en plus de monde. Donc la première réaction est une réaction médicale. On a besoin de soigner les gens et c'était évident. Et si nous-mêmes on était malades, il faudrait nous soigner. Donc il y a une réaction médicale. Il y a une prise de conscience également des relations entre la santé animale et la santé humaine qui date déjà de quelques années, avec la grippe aviaire, avec des événements comme celui-ci ou la vache folle même un petit peu avant. On s'est dit la santé animale peut avoir un impact sur la santé humaine et la relation médecine et médecine vétérinaire s'est faite assez bien, était en train de monter en puissance.
D'ailleurs, la grippe aviaire a encore frappé pendant l'épidémie.
Et puis avec cette pandémie, on prend conscience que la santé des environnements est également importante. Que la manière dont on se comporte vis-à-vis de ces environnements, notamment vis-à-vis de la faune sauvage, la promiscuité qu'on peut entretenir avec de la faune sauvage, la manière dont on va sur ces territoires de la faune sauvage, la manière dont on les détruit, ce qui fait qu'elle vient dans des territoires plus humanisés, tout ça, ça a de l'importance. Et c'est le concept qu'on appelle One Health, une seule santé. Une santé pour la planète, en quelque sorte, où santé humaine, santé animale, santé environnementale sont vraiment étroitement imbriquées.
Vous êtes président du Muséum d'Histoire Naturelle. Ça me fait penser à cette musique. Le roi lion.
Oui, j'avais reconnu.
L'histoire de la vie. Quand on pense à ce lieu, on pense tout de suite évidemment à la grande galerie de l'évolution qu'on connaît tous hein, avec cette grande traversée d'animaux. Qu'est-ce que vous ressentez, Bruno David, quand vous êtes là-bas ?
Alors, je suis naturaliste. Donc, il y a une scénarisation, il y a une scénographie de la Grande Galerie qui est absolument merveilleuse. Moi, je suis vraiment enchanté par le lieu, par le bâtiment aussi, par cette immense nef, cette construction de la fin du 19e siècle, qui est absolument magique. Et je dois reconnaître que l'architecte Chemetov, qui a proposé cette scénarisation, cette scénographie dans la Grande Galerie, a eu un trait de génie, parce que c'est absolument formidable. Mais peut-être que je vais surprendre, mais j'aime bien la partie souterraine qui représente la mer. Alors, je suis biologiste marin d'origine, mais je trouve qu'il y a une ambiance dans cette partie avec un éclairage bleuté, avec tous ces animaux marins. Et je suis très charmé par cette ambiance. Peut-être même plus que par la caravane africaine de l'étage supérieur.
Et s'il y a une musique à vous que vous aimez et que vous écouteriez dans ce bâtiment extraordinaire, ce serait quoi ?
Alors j'ai un regard un petit peu biaisé là-dessus parce qu'il se trouve que Gauthier Capuçon est venu jouer du violoncelle dans la Grande Galerie de l'Évolution. Donc j'aurais tendance à m'orienter vers un morceau de musique classique, comme un morceau de Bach par exemple, parce que j'ai évidemment un très très bon souvenir de ce moment. Ce grand bâtiment finalement a une très bonne acoustique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ça a vraiment été un moment formidable.
Alors venons-en à votre livre « À l'aube de la sixième extinction ». Avant tout, je pense que c'est important de rappeler rapidement quelles ont été les cinq précédentes extinctions, car je ne suis pas sûre que ce soit très évident pour tout le monde. Je le fais, vous me reprenez si jamais je me trompe.
D'accord.
Il y a un tableau très clair d'ailleurs dans votre livre à ce sujet, page 137. Première extinction, à la fin de la période de l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années. Deuxième extinction, c'était à la fin de la période du Dévonien, il y a 350 millions d'années. Troisième, à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années. Quatrième, à la fin du Trias, il y a 200 millions d'années. Et cinquième, celle-ci, on la connaît tous, il y a 66 millions d'années, c'était à la fin du Crétacé, et c'est notamment le moment où ont disparu les dinosaures. Toutes ces extinctions sont dues à des changements climatiques, et à chaque fois, la majorité des espèces vivantes a disparu. Et donc vous nous dites dans votre livre, ça nous pend au nez, si on continue à vivre comme ça, une sixième extinction, qui disparaîtrait ?
Alors, c'est pas possible de le dire scientifiquement. Les formes de vie les plus complexes disparaîtraient parce que leur complexité fait qu'elles sont très adaptées aux circonstances d'aujourd'hui, aux contingences écologiques d'aujourd'hui. Mmh. Donc plus une espèce est complexe, plus elle risque de disparaître. Les espèces les plus simples, les micro-organismes n'auraient peu de problèmes finalement. Il y en a qui auraient des problèmes, mais enfin globalement, les micro-organismes passeraient la crise. Il y a des organismes plus complexes qui passeraient la crise parce qu'on sait qu'ils sont très résistants, qu'ils ont des capacités d'adaptation étonnantes. Mm-hmm. On peut penser aux scorpions, on peut penser aux petits tardigrades qu'on appelle aussi oursons des mousses ou oursons des glaces, qui sont des êtres absolument microscopiques. On les a envoyés dans l'espace, ils ont survécu dans l'espace. Des Anglais ont fait une mission en Antarctique. Et par erreur, parce qu'ils vivent aussi dans les glaces de l'Antarctique, ils ont congelé des tardigrades à moins 250 degrés dans de l'azote liquide. Une fois revenus en Angleterre, les tardigrades se sont réveillés.
Incroyable.
Donc vous voyez, c'est absolument incroyable. Alors, bien sûr, si on les brûle avec un chalumeau, ils ne vont pas se réveiller.
Oui, oui, oui.
Mais il y a des formes de vie qui ont des capacités de résistance absolument extraordinaires.
Bon, j'en viens à la question que tout le monde se pose. Et nous alors ?
Et nous ? Eh bien, nous sommes complexes.
Oui.
Nous sommes complexes.
Donc ça veut dire que
ça veut dire qu'on est fragile.
On est fragile.
Je prends l'exemple d'un cadran solaire par rapport à
une montre. Pourrait y passer.
Mmh. Un cadran solaire, ça donne l'heure, certes de manière assez approximative, mais si avec un marteau on tape sur un cadran solaire, il va continuer de donner l'heure à peu près. Si on prend une montre, compliqué. Si on tape dessus avec un marteau, elle donnera
plus l'heure.
C'est
fini, elle donnera plus
l'heure. Donc la complexité est liée à la fragilité.
Donc on s'éteindrait plutôt dans la première moitié.
On serait sans doute parmi les premières victimes de la crise. Enfin, en tout cas, on serait
plutôt
parmi les victimes
deuxième.
De la crise. Mmh. Au-delà du fait que l'homme, en surexploitant des ressources ou en tuant des espèces animales, les éradique directement. Et là, bien sûr, on a vu le dodo à l'île Maurice, par exemple, où les hommes les ont mangés, donc après, il n'y en avait plus. Bon, dans ces cas-là, c'est vraiment une emprise directe sur une espèce qui va disparaître. Mais sinon, globalement, s'il y a des facteurs de pression qui s'exercent globalement sur la biodiversité, les espèces les plus complexes seront les premières victimes et nous serons sans doute parmi les premières victimes.
Il est toujours possible de voir un très beau dodo au Muséum d'Histoire Naturelle.
Alors on peut voir un dodo au Muséum, il y en a en plâtre et puis on a aussi l'original, on a l'original en squelette dans les réserves du Muséum.
C'est très percutant ce que vous nous dites, on est donc très complexe et donc à même d'être touché par une extinction plus facilement que d'autres espèces. Pourquoi ? On n'arrive pas à avoir vraiment conscience de cela. On l'a de plus en plus, mais pas vraiment quand même.
Je pense que parce que l'espèce humaine, elle est fondamentalement optimiste. même si en ce moment c'est difficile à dire avec la pandémie. Je pense qu'intrinsèquement, on refuse de voir les problèmes qui se dressent devant nous. Si on regarde un petit peu l'histoire des sociétés cette fois, et pas l'histoire de la biosphère, on se rend compte que souvent, on est allé au bout des problèmes. Moi, je prends souvent l'exemple de la Première Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, s'il y avait quelque chose de prévisible, c'est après cette montée aux armements, cet antagonisme entre les nations, ces nationalismes qui s'exacerbaient, c'était bien qu'il allait y avoir un conflit. Et les gens de l'époque sont allés au bout de leur erreur, jusqu'à ce conflit.
Mais malgré tout, il va falloir qu'on en prenne conscience, à un moment donné, pour changer nos comportements.
J'espère, ce livre, il est là pour dresser un constat et pour appeler chacun à ses responsabilités, en quelque sorte, donc sans donner de leçons péremptoires, mais pour dire, attention, il y a un problème, il faut peut-être y prêter attention et peut-être qu'il faut qu'on change nos comportements. Enfin, quand je dis peut-être, je pense qu'il faut qu'on change nos comportements.
Alors justement, si la sixième extinction arrivait, la cause, ce serait... On en a parlé, on a parlé des cinq extinctions précédentes. À chaque fois, c'était à cause d'un changement climatique. Là, ce serait la suractivité humaine ?
Alors oui, je voudrais revenir sur les cinq précédentes. Les cinq précédentes, le dernier facteur qui joue, c'est le changement climatique qui déstabilise la biosphère de l'époque, la biodiversité de l'époque. Mais les causes en amont de ce changement climatique, qu'est-ce qui provoque ce changement climatique ? Ce sont souvent plusieurs causes à la fois. Toutes ces extinctions ont été multifactorielles, ont eu plusieurs facteurs. Plus ont de raisons d'exister, même si, in fine, c'est le changement climatique qui a le plus déstabilisé la biosphère. Aujourd'hui, on a bien sûr du changement climatique, mais on a également d'autres facteurs de pression sur le monde vivant qui sont plus importants même que le changement climatique, comme l'occupation des espaces, la surexploitation des ressources dans les océans, les espèces invasives, c'est-à-dire des espèces qu'on va déplacer d'un bout à l'autre de la planète, les pollutions, qui font qu'on exerce toute une série de pressions sur la biosphère, dont la santé se dégrade progressivement, et on est face à cette dégradation, et donc le constat que je dresse, c'est qu'il faut vraiment qu'on réagisse.
Vous dites, en fait, qu'il y a toujours de l'espoir, mais qu'il faut vraiment arrêter de mettre la pression à la biodiversité. Et vous donnez un exemple qui a fonctionné sur la surexploitation des ressources océaniques. Par exemple, quand il y a eu un moratoire sur la pêche au thon rouge, le thon rouge est revenu. Donc finalement, il y a de l'espoir. Ça veut dire que si on change nos comportements, le résultat derrière peut être positif. C'en est un exemple.
Oui, il y a vraiment de l'espoir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on arrête d'exercer
ces pressions... C'est important de le dire, parce qu'on se dit souvent, d'accord, ce qui nous arrive, c'est grave. Il va falloir vraiment changer de comportement. Mais derrière, est-ce qu'on est sûr qu'il va y avoir un résultat ? Donc vous nous le confirmez.
Non, je dis bien qu'on est à l'aube de la sixième extinction. Donc il faut avoir cette conscience qu'on est à l'aube de l'extinction. Que ça va très, très vite. Donc on va très vite arriver à midi, voire au soir. Donc il faut quand même qu'on réagisse de manière assez ferme, mais la biodiversité, elle est très résiliente, elle a une capacité à cicatriser, à se reconstituer, qui est assez phénoménale. On peut récupérer les choses. Évidemment, si on dépasse un certain seuil, c'est-à-dire que si on n'avait pas mis en place ce moratoire, il n'y aurait plus de thon rouge du tout, et à partir de là, ça aurait été terminé. Mais si on n'atteint pas ce seuil, il y a de l'espoir, et la biodiversité, j'aime bien la formule d'Isabelle Autissier qui dit que la biodiversité est bonne fille, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous rend ce qu'on lui donne.
Vous dites aussi dans votre livre, le problème, c'est que l'homme est un peu arrogant. Si l'on ramène toute la vie sur Terre à l'échelle d'une année, l'homme arrive le 31 décembre à minuit moins une. Donc on est en train de mettre à plat tout un monde dans lequel nous, on n'a même pas vécu une minute. C'est quand même incroyable. En fait, et puis finalement, ça veut dire aussi que ce monde, on pense qu'on le maîtrise, mais on ne le maîtrise pas vraiment. C'est faux.
Oui, cette comparaison, parce que c'est très difficile de se rendre compte de la profondeur des temps géologiques.
Ouais. Je trouve qu'avec cet exemple, échelle...
Donc ça permet de relativiser et de se dire...
Ça permet de mieux prendre conscience, de ce qu'on fait de cette Terre, alors qu'en fait, on la connaît à peine. On y a vécu moins d'une minute.
Si toute l'histoire de la vie sur Terre, effectivement, c'est une année, notre ère, 2000 ans, 2021 ans...
Ouais.
Ça tient dans les 20 dernières secondes de l'année.
20 dernières secondes, même pas
une minute.
Du haut
de ces 20 dernières secondes, on s'arroge le droit de tout modifier, de dire « mais vous inquiétez pas, on va gérer », etc. Et je dis « bon, mettez-moi aux commandes d'un Airbus, montez derrière, et puis je vais vous dire « vous inquiétez pas, je vais tripoter les boutons, je vais bien y arriver ». Non, on va pas y arriver. Et on peut pas prétendre gérer quelque chose qui a mis une année à se construire alors que nous, on a vécu 20 secondes. Et 20 secondes depuis 2000 ans, hein, donc c'est pas 20 secondes aujourd'hui.
Donc il faut aussi avoir un petit peu plus d'humilité face à la planète.
Il faut qu'on descende de notre piédestal. Il faut cesser cette arrogance en pensant qu'on va pouvoir tout faire. Je le dis également dans le livre, la biodiversité, elle ne se gère pas. Parce que la vie, elle évolue. Et on ne peut pas gérer la biodiversité comme on gérerait une machine. Ça n'est pas une machine. On est capable de faire des choses extraordinairement complexes, on est capable de faire des stations spatiales, on est capable de faire des bombes atomiques, on est capable de faire des avions, des fusées, tout ce qu'on fait. On fait des choses extraordinaires, mais on n'est pas capable de gérer la vie. parce que la vie, elle va changer sans arrêt. Et on le voit avec cet exemple du virus. C'est un tout petit virus quand même, hein. C'est quelques gènes, c'est rien du tout. Et ils nous fabriquent des variants anglais, brésiliens, sud-africains, enfin ils nous empoisonnent la vie depuis un an. Et cette chose insignifiante, on n'est pas capable de la maîtriser à l'échelle mondiale. Ça devrait quand même nous faire réfléchir sur notre arrogance et sur notre propension à croire qu'on va pouvoir tout faire, tout gérer, que notre technologie va nous protéger et qu'on est les maîtres du monde. Donc il ne faut pas se prendre pour des démiurges, c'est ce que je dis dans le livre. Ne nous prenons pas pour des démiurges. Soyons un petit peu plus modestes et respectueux de la vie qui nous entoure.
Dans votre livre, vous précisez aussi qu'il y a une différence entre déclin et disparition. Aujourd'hui, on en est au stade seulement, si je peux me permettre, de déclin. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'alerter. Alors en termes de timing, on a quoi comme temps devant nous pour agir? Une décennie? Deux, max?
Là non plus, ça ne serait pas très scientifique de répondre avec une très grande précision. Je pense qu'il faut qu'on réagisse tout de suite. Et ici et maintenant, j'aurais tendance à dire. L'avantage de la biodiversité, c'est que si on fait des efforts aujourd'hui à des endroits que l'on connaît, je vais prendre l'exemple de la Beauce ou de la Brie, hein, ces grandes plaines agricoles, si on replante des haies dans la Beauce et la Brie, en quelques années, il y a de la biodiversité qui va revenir. On aura de nouveau des insectes, des oiseaux, des choses comme ça.
Il y a vraiment des solutions,
Il y a des solutions qui sont très accessibles, alors qui ont un coût quand même. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, un propriétaire, un grand céréalier de la Beauce qui a des champs immenses sans un arbre pour le gêner quand il passe ses tracteurs. Évidemment, si on met des haies là au milieu, alors sans revenir à une parcellisation du territoire comme il y a pu avoir autrefois, ça va l'embarrasser un peu. Mais je pense que globalement, il y sera lui-même gagnant aussi. Parce qu'il y aura un meilleur équilibre écologique et un meilleur fonctionnement de son écosystème agraire, ce qu'on appelle l'agroécologie. Et finalement, tout le monde sera gagnant, la biodiversité sera gagnante et nous serons aussi gagnants. Et puis on sera gagnant par la beauté des paysages qu'on aura retrouvés aussi. Hein.
Bruno David, vous, en marge de vos recherches et de votre vie de biologiste marin, est-ce que vous avez changé beaucoup d'habitudes de vie au fur et à mesure que l'âge est venu?
Alors oui, j'ai pris conscience, il faut reconnaître que vu mon âge, quand j'étais jeune, dans les années 70, la biodiversité n'était pas vraiment un problème. Je veux dire, il n'y avait pas cette prise de conscience. Alors c'est facile de reprocher aux enfants du baby-boom, les baby-boomers, de dire « mais vous avez massacré la planète ». Mais il n'y avait pas cette prise de conscience non plus. On était moins nombreux, on n'avait pas les chiffres.
On dit souvent que c'est de votre faute quand même.
Oui, mais je ne dis pas que ça ne soit pas de notre faute. Ouais. Mais il faut comprendre qu'on n'avait pas cette conscience-là. Et que si vous aviez été vous à cette époque-là, vous n'auriez pas eu plus conscience de ça.
Sûrement pas plus. On serait
sans doute comporté aussi globalement de la même manière. Ceci dit, j'avais une conscience plus aiguë que la moyenne, sans doute. Je m'intéressais déjà aux questions d'environnement. Et c'est des sujets que j'ai vus émerger dans les années 80 dans le monde scientifique, où on a commencé de se poser des questions. Et on a dit quand même, il y a des choses. Donc j'ai changé aussi de comportement pour vous dire, donner juste une indication. Je n'ai pas pris l'avion pour des raisons touristiques depuis 2009.
Ça, c'est un très bel exemple.
C'est un bel exemple.
Ouais.
Alors, j'ai pris l'avion pour des raisons professionnelles, parce que là, je ne pouvais pas faire autrement. Mais c'est des choses qu'on a tendance à réduire. Et au muséum, par exemple, j'ai nommé quelqu'un en charge d'essayer d'estimer l'empreinte écologique de l'établissement. Alors, ça va être compliqué. Hein. Il faut des indicateurs, c'est compliqué. Mais je voudrais qu'on s'inscrive dans cette démarche au muséum, qui est une démarche exemplaire, d'avoir un indicateur qui nous permette de voir si on s'améliore. Le but, ce n'est pas que l'indicateur soit absolument parfait. C'est d'avoir quelque chose qu'on puisse suivre sur les années.
Tendre vers quelque
chose
qui est mieux en mieux.
Si on s'améliore ou si on ne s'améliore pas.
Quel est votre livre de chevet? S'il y en a un que vous me conseilleriez de lire, ce serait lequel?
J'ai plusieurs livres de chevet parce que je lis beaucoup. Je suis très attiré par la littérature classique. Je peux vous dire que je viens de terminer les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand dans leur texte intégral, 3500 pages de Chateaubriand. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très classique. Juste après, je viens de lire un livre sur la Révolution française, sur trois journées qui ont fondé la Révolution française. Et puis sinon, je peux vous parler de ce que j'ai lu un petit peu pendant le confinement.
Alors,
c'est peut-être mon subconscient qui m'a fait travailler, mais j'ai relu un livre que j'aime beaucoup d'Ismaël Kadare, donc le prix Nobel de littérature, qui est un écrivain albanais. Il a écrit un livre qui s'appelle Avril brisé. Et après, je me suis dit, je lis Avril brisé en mars-avril du premier confinement.
En mars-avril de l'année dernière.
Ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec une pandémie. Hein. C'est une histoire sordide, d'ailleurs, qui se passe en Albanie, où il y a des reprises de sang. Donc, c'est une sorte de vendetta albanaise, avec un couple de jeunes mariés qui se promènent en calèche sur les hauts plateaux albanais en hiver. Enfin, c'est assez bizarre comme ambiance. C'est très, très bien écrit. C'est un écrivain que j'adore, Ismaël Kadare. Et j'en ai lu beaucoup et je ne me lasse pas. Et là, je l'ai vraiment relu même.
Donc ça, c'était une lecture du confinement.
C'était une lecture du confinement, oui.
Et je vous pose la question qui est le sous-titre de votre livre. Comment habiter la Terre pour ne pas nous mettre, nous, êtres humains, en péril ?
Oui, alors si j'avais une vraie réponse à tout ça,
Vous avez envie de me dire, lisez mon livre et puis vous verrez bien, c'est ça ?
Non, mais le livre ne donne pas de solution non plus, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Le livre aborde quand même des solutions.
Il aborde ces choses-là, bien sûr. Il donne des pistes quand même. Mais qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ? C'est qu'on exerce un certain nombre de pressions sur la biosphère. Le meilleur moyen d'agir, ce n'est pas d'essayer de réfléchir sur comment finalement la biosphère pourrait se comporter, autrement la biodiversité pourrait-elle aller mieux à tel ou tel endroit. C'est de se dire, si je réduis les facteurs de pression, et ça on sait lesquels ils sont, on peut ipso facto savoir qu'on relâchera cette pression sur la biosphère et donc qu'elle se portera mieux. Donc si on pollue moins, si on utilise moins les sols, si on bétonne moins, si on rend des espaces à la nature, si on évite de transporter des espèces d'un bout à l'autre de la planète, si on réduit aussi le changement climatique, si on fait tout ça, ça ira mieux. Donc travaillons sur les facteurs de pression.
Tout en écoutant quand même Georges Brassens.
Tout en écoutant Georges Brassens.
Ça fait pas de mal à la nature. Je me suis fait tout petit, qui est une de vos chansons préférées.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson ?
Alors ça, c'est une chanson un petit peu clin d'œil, c'est assez personnel.
Vous avez
en fait.
Le sourire, en tout cas.
Oui, parce que j'ai une petite fille, donc la fille de ma fille, qui a 3 ans, et je lui chantonne du Brassens. Alors pas que celle-ci, mais notamment celle-ci. Et elle la chantonne avec moi, donc c'était un petit clin d'œil personnel.
Dans chaque interview inattendue, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou si vous souhaitez parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, eh bien c'est le moment. Alors Bruno, David, à qui avez-vous choisi de laisser un message ?
À ma fille, justement. Ça aurait pu être un de mes fils aussi, mais bon, j'ai choisi ma fille parce que je suis un père et puis que finalement, il y a une relation père-fille qui est un petit peu particulière quand même, il faut le reconnaître. Hein. Et donc, ça serait un message pour échanger sur le monde, échanger sur la vie, échanger un petit peu sur le sujet du livre, échanger sur les virus parce qu'elle est microbiologiste de formation et finalement, peut-être lui parler de symbiose, donc aussi de ces relations entre les êtres vivants qui sont si importantes, qui nous montrent aussi notre fragilité. Et puis, pour terminer, simplement lui dire que je suis fier d'elle. C'est normal pour un père, non ?
Je pense qu'elle vous écoutera, que le message passera sans
J'espère
aucun doute.
J'espère que mes fils ne seront pas jaloux.
Merci Bruno David, merci d'avoir partagé avec nous votre regard sur notre société et d'avoir écrit à l'aube, je précise bien à l'aube, de la 6e extinction, un plaidoyer pour le vivant sous toutes ses formes. C'est aussi un guide pratique à hauteur d'homme pour éviter le naufrage et poser les jalons d'une éthique pour la planète sans nous faire la morale ni nous culpabiliser. C'est pour ça que c'est très agréable à lire aussi et c'est aux éditions Grasset. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un épisode de notre podcast original L'Interview Inattendue. À la réalisation Pascal Choisy et à la programmation Marie-Caroline Mandon. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur les applications RTL et AudioNow, ainsi que toutes vos plateformes de podcasts favorites.